tous les mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, Anne-Marie de l'association Littéra 05. Nous avons pris l'habitude, au fil des ondes, je dirais, de fréquence Mistral, de vous présenter des livres que nous avons aimés. Aujourd'hui, un livre anglais, qui a été donc traduit de l'anglais par Jean-Pierre Roustin. La seule histoire d'un auteur britannique qui s'appelle Julian Barnes. Ça a été publié au Mercure de France en 2018. Julian Barnes est un auteur déjà d'un certain âge, puisqu'il est né en 1946 à Leicester. Il a publié beaucoup de choses, des romans, 12 romans, des romans policiers, des livres de nouvelles, des essais. Un livre qui avait été remarqué qui s'appelle justement « Une fille, virgule, qui danse ».« Une fille qui danse ». Qui lui avait valu un prix, je crois que c'est le Fisher Books, je ne me rappelle plus, qui avait donc été remarqué. L'histoire de Tony, de la soixantaine, qui a pris sa retraite, qui a connu une existence assez terne, un mariage aussi terne aussi que son existence. Autrefois, il avait beaucoup fréquenté Véronica, puis se sont éloignés l'un de l'autre. Et puis apprenant un peu plus tard qu'elle sortait avec Adrien, le plus brillant de ses anciens condisciples de lycée et de fac, la colère et la déception lui ont fait écrire une lettre épouvantable aux deux amoureux. Et peu après, qu'est-ce qu'il apprend ? Que Adrien s'est suicidé. Alors pourquoi Adrien s'est-il suicidé ? Eh bien, 40 ans après, le passé va ressurgir. Chez Julian Barnes, il y a souvent comme ça, justement, des souvenirs qui ont été très soigneusement cachés et occultés, qui remontent à la surface. Et le souvenir qui remonte, c'est Véronica qui dansait un soir, d'où le titre, « Une fille qui danse ». Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre-là, je vous en ai dit simplement quelques mots pour vous donner une idée de ce qu'écrivait Julian Barnes. Je vais vous parler de son dernier livre, « La seule histoire ». La première phrase du livre est assez significative. Préféreriez-vous aimer davantage et souffrir davantage ou aimer moins et moins souffrir? C'est, je pense, finalement la seule vraie question. Ce sont les premiers mots du roman. Et pour Julian Barnes, la seule histoire qui compte, ou du moins pour le héros, mais enfin, à travers le héros, c'est souvent... je dirais presque autobiographique. Hein. La seule histoire qui compte, c'est celle de son premier amour. Alors, c'est l'histoire de Paul, qui a 19 ans. Il s'ennuie un peu cet été-là, le dernier avant son départ à l'université. Il va souvent jouer au tennis, au club de tennis voisin, et c'est là qu'il va rencontrer Suzanne, 48 ans, je vous rappelle qu'il a 19 ans, lui. 48 ans, donc Suzanne, mariée, deux grandes filles, avec qui il va disputer des parties de tennis en double. Et bien sûr, une histoire d'amour va naître. Mais alors vraiment un amour total, absolu, qu'ils vont vivre d'abord en cachette. Et bien pourquoi ? Parce qu'un jeune homme de 19 ans n'a pas le droit d'aimer une femme d'une trentaine d'années plus vieille que lui. Alors justement... Il faut qu'ils arrivent à briser ce tabou, briser les conventions sociales. Ils vont le faire, d'ailleurs. Ils vont faire face à la réprobation de tous, en particulier en premier à la réprobation du mari de Suzanne, de ses enfants, qui sont ses filles, qui sont plus âgées que Paul. Et puis les parents de Paul aussi. Les parents de Paul n'admettent pas du tout cet amour. Je vais vous lire un passage qui est assez plein d'humour. Alors, quel mot pourrait-on trouver de nos jours pour décrire une relation entre un garçon, ou quasi-homme, de 19 ans et une femme de 48 ans? Peut-être ces termes de presse à sensation, cougar ou toy boy. Mais ces mots n'existaient pas dans ce sens alors, même si des gens se comportaient de la sorte avant d'être ainsi nommés. Ou on pourrait penser roman français, femme mûre enseignant l'art d'aimer un jeune homme. Oh là là! Mais il n'y avait rien de français dans notre relation ni dans nos personnes. Nous étions anglais et n'avions donc que ces mots anglais moralisants à notre disposition. Des mots comme Scarlet Woman et adultéress. Scarlet Woman qui veut dire femme immorale. Mais personne ne fut jamais moins écarlate à nos yeux que Susan. Et comme elle me l'a dit un jour, la première fois qu'elle avait entendu le mot adultérie, elle avait cru qu'il s'agissait de l'acte de trafiquer le lait en le coupant d'eau. C'est à cause du mot qui est très proche du verbe adulterate, qui veut dire frelater. À présent, on parle de sexe transactionnel et de sexe récréatif. Personne à l'époque ne pratiquait le sexe récréatif. Enfin, sans doute que si, mais on ne l'appelait pas comme ça. En ce temps-là, dans ce pays-ci, il y avait l'amour et il y avait le sexe, et il y avait un mélange des deux, parfois problématique, parfois harmonieux, qui parfois fonctionnait et parfois non. Un échange entre mes parents, Lisée et ma mère, et moi, un de ces échanges bien anglais qui condensent des paragraphes d'animosité en deux phrases. « Mais j'ai 19 ans !»« Exactement, tu as seulement 19 ans. » Nous n'en étions, elle et moi, qu'à notre second partenaire amoureux, une quasi-virginité en somme. Je l'avais perdu ce pucelage, l'habituel moment de tendre, anxieuse et fébrile maladresse, avec une fille de la fac vers la fin de mon troisième trimestre. Et Suzanne, bien qu'elle eût deux enfants et fût mariée depuis un quart de siècle, n'avait guère plus d'expérience que moi. À la réflexion, peut-être que tout se serait passé différemment si l'un de nous en avait su davantage. Mais qui en amour est enclin à ce genre de conjectures rétrospectives? Et d'ailleurs, est-ce que je veux dire plus d'expérience sexuelle ou plus d'expérience en amour? Mais je vois que j'anticipe. Les parents de Paul vont vivre très mal cet amour. C'était quelque peu pour moi un sujet de fierté d'être, semble-t-il, tombé exactement sur le genre de relation amoureuse que mes parents désapprouveraient le plus. Je ne voudrais pas, et certainement pas à ce stade tardif de ma vie, les diaboliser. Ils étaient les produits de leur époque et de leur temps, de leur classe sociale et de leur gène. Tout comme moi. Ils étaient travailleurs, honnêtes, et voulaient ce qu'ils pensaient être le meilleur pour leur seul enfant. Les défauts que je voyais en eux étaient, sous un jour différent, des qualités. Mais à l'époque... « Salut, maman et papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait homo, ce que vous avez sans doute deviné, et je pars en vacances la semaine prochaine avec Pedro. Oui, maman, ce Pedro, celui qui te coiffe au village. » Il m'a demandé où j'allais en vacances et j'ai dit « des suggestions ?» et on est parti de là. Alors on s'en va ensemble dans une île grecque. J'imagine mes parents tourneboulés et se demandant ce que les voisins diraient et restant terrés quelque temps au gîte et parlant derrière des portes closes et conjecturant des difficultés à venir pour moi qui ne seraient qu'une projection de leur propre désarroi. Mais ils en viendraient à se dire que les temps changeaient et trouveraient un petit héroïsme discret dans leur aptitude à s'accommoder de cette situation imprévue. Et ma mère se demanderait dans quelle mesure il serait socialement approprié de laisser Pedro continuer à lui couper les cheveux. Et puis, le pire stade de tout le processus, elle se décernerait une médaille d'honneur pour sa nouvelle tolérance, tout en remerciant le Dieu auquel elle ne croyait pas, de ce que son père n'eût pas vécu assez longtemps pour voir le jour où. Oui, cela se serait plutôt bien passé, finalement, comme un autre scénario alors populaire dans les journaux. « Salut, parents, voilà Cindy, c'est ma copine. Enfin, un peu plus que ça, en fait, comme vous voyez. Elle va être une mère ado dans quelques mois. Ne vous en faites pas. Elle était d'âge légal quand je l'ai enlevée à la porte du lycée, mais je pense que le temps presse. Alors vous feriez bien de rencontrer ses parents et de réserver une date au bureau d'état civil. Oui, ils auraient pu s'accommoder de ça aussi. Bien sûr, leur meilleur scénario, comme il a été suggéré, était qu'au club de tennis, je rencontrerai une aimable Christine ou une Virginia dont la nature conciliante et optimiste serait à leur goût. Et puis, il pourrait y avoir de vraies fiançailles suivies d'un vrai mariage et d'une vraie lune de miel, et plus tard de vrais petits-enfants. Mais au lieu de cela, j'étais revenue du club de tennis avec Madame Suzanne MacLeod, une femme mariée du village qui avait deux filles plus âgées que moi. Et, jusqu'à ce que je laisse derrière moi cet absurde accès d'amour juvénile, il n'y aurait ni fiançailles, ni mariage, sans même parler d'un doux petit bruit de pied minuscule. Il n'y aurait qu'embarras et humiliation et honte et regards réprobateurs de voisins collémentés et allusions sournoises à ces femmes qui les prennent au berceau. J'étais donc parvenue à mettre mes parents dans une situation si inacceptable qu'elle ne pouvait même pas être reconnue, bien moins encore raisonnablement évoquée. Et maintenant, l'idée initiale qu'avait eue ma mère d'inviter les MacLeod à prendre l'apéritif avait été définitivement rejetée. Alors, face à toutes ces réactions de leur famille et de la société, ils décident de partir habiter Londres. Suzanne a un peu d'argent, ce qui leur permet de vivre, et Paul va continuer ses études. Le bonheur, alors ? Mais oui, le bonheur, parce que c'est toujours le grand amour. Malheureusement, il va arriver quelque chose, c'est que peu à peu, Paul va découvrir que Suzanne a un problème qu'elle a soigneusement dissimulé jusque-là. Elle aime boire, même plus que ça, elle est alcoolique. Il en prend conscience peu à peu, alors qu'elle, bien sûr, trouve toutes les excuses pour refuser de voir la vérité en face. Je vous lis un passage qui montre le désarroi de Paul. Pour économiser du temps et aussi de l'émotion, vous vous adressez à elle carrément, comme à la buveuse qu'elle est. Vous ne dites plus « il semble y avoir un problème ». Vois-tu ce que cela pourrait être ? Peut-être puis-je suggérer ? Rien de tout ça. Un jour donc, vous avancez l'idée des alcooliques anonymes sans savoir s'ils ont un lieu de réunion à proximité. « Pas question d'aller chez les bons dieux arts, » répond-elle fermement. Vu son aversion pour les prêtres et son extrême désapprobation des missionnaires, cette réaction est compréhensible. Elle considère sûrement les alcooliques anonymes comme une autre bande de missionnaires américains s'ingérant dans les systèmes de croyances d'autres contrées pour attirer les boiteux et les estropiés dans la radieuse présence de leur Dieu. Vous ne pouvez l'en blâmer. Le plus souvent, vous ne pouvez que faire face aux crises de chaque jour. De temps à autre, vous pensez à l'avenir et voyez une possible issue qui a une logique terrifiante. À peu près ceci. Elle ne boit pas tout le temps, pas tous les jours. Elle peut en passer un ou deux sans le réconfort de la bouteille. Mais sa mémoire à cause de la boisson se dégrade. La logique est donc celle-ci. Si elle continue à détruire sa mémoire comme elle le fait, peut-être atteindra-t-elle le stade où elle aura oublié qu'elle est une alcoolique. Cela pourrait-il arriver ? Ce serait une sorte de remède. Mais vous pensez aussi que vous pourriez aussi bien l'achever à coups d'électrochoc et en finir. Voici un des problèmes. Vous ne pensez pas au fond que l'alcoolisme soit une maladie physique. Sans doute avez-vous entendu affirmer que c'en est une, mais vous n'êtes pas vraiment convaincu. Vous ne pouvez vous empêcher de le considérer comme beaucoup de gens, avec certains desquels vous n'aimeriez probablement pas être associé, le considèrent depuis des siècles comme une maladie morale. Et une des raisons de votre opinion est qu'elle est du même avis. Quand elle est aussi lucide, aussi rationnelle et aussi aimable qu'elle peut l'être, et aussi tourmentée par ce qui lui arrive que vous l'êtes, elle vous dit, comme elle l'a toujours fait, qu'elle déteste l'idée d'être une buveuse et se sent profondément honteuse et coupable. Alors vous devez la quitter, parce qu'elle est mauvaise. Elle a une maladie morale, et c'est pourquoi les hôpitaux et les médecins ne peuvent pas la guérir. Ils ne peuvent pas retaper une personnalité défectueuse issue d'une génération qui a fait son temps. Elle vous presse encore de la quitter. Mais vous ne pouvez pas quitter Suzanne. Comment pourriez-vous supporter de lui retirer votre amour? Si vous ne l'aimiez pas, qui l'aimerait? Et peut-être est-ce pire que ça. Ce n'est pas seulement de l'amour de votre part, mais une addiction. Alors, ne serait-ce pas ironique? Voilà, que va faire Paul? Il aime, bien sûr. Il ne veut pas la laisser seule avec ses démons. Il va essayer de la sauver. Bon, je ne vous en dis pas plus, parce que après, bien sûr, il y a lui, sa jeunesse envolée, je dirais. Les années qui passent, il a 30 ans, puis 31, puis 32. Est-ce qu'il vaut mieux avoir aimé et perdre ou ne jamais avoir aimé? C'est la question qui se pose. Voilà, c'est une belle histoire d'amour entre Paul et Suzanne que livre plusieurs décennies après leur première rencontre Julian Barnes. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du style de la construction. Dans la première partie, c'est écrit à la première personne du singulier, 50 ans donc après sa rencontre avec Suzanne, qui raconte les débuts de leur amour, ou du moins ce dont il se souvient, bien sûr. La deuxième partie, elle est écrite à la deuxième personne du pluriel. Il y a quelqu'un qui, c'est peut-être le lecteur, je ne sais pas, qui interpelle Paul, vous, qui s'adresse à lui, vous. Et puis enfin, dans la troisième partie, on se met encore un petit peu plus à distance. C'est écrit à la troisième personne du singulier pour raconter l'après Suzanne. Donc des héros qui, souvent chez Julian Barnes, souvent chez lui, se retournent sur leur vie, sur leur passé, tentent de mettre de l'ordre dans leurs souvenirs, essayent de mettre en phase leur mémoire avec ce qu'ils ressentent. Je vous rappelle le titre, La seule histoire, Julian Barnes, c'est publié au Mercure de France. Une très belle réflexion, je dirais, sur la vérité de l'amour, sur le temps qui passe aussi. Un très beau livre sur l'amour. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.